Ladies and gentlemen, colleagues, it gives me very great pleasure to formally take the chair on this, I think, unique occasion. I don't think we've ever had a lecture here jointly with the Institut Français, and it is a very real pleasure to welcome formally to this joint occasion our friends at the newly refurbished Institut. I can't think of anyone better to grace this occasion than our speaker this afternoon. Monsieur Lang was a professor, is a professor, once a professor, always a professor. He was a professor of law at Nancy, but of course is best known, at least to us, for his periods in office as Minister of Culture. In Britain, we don't have Ministers of Culture. It's probably significant that what we have are Ministers of the National Heritage. The English tend to look back. The French look in all directions. Jack Lang was Minister of Culture from 1981 to 1986, and then again from 1988 to 1992. And then he took an additional portfolio and became Minister of Culture and Education. Interesting, when we combined education in Britain, we combined it with science, another of those little trans-manche differences. He was Minister of Culture and Education from 1992 to 1993. Now, he's just stopped being a member of the European Parliament and is mayor of the city of Blois. It is with very great pleasure that I invite him now to talk to us in French on the topic, Is Cultural Policy Possible Without Politics? Former Minister, Professor Lang.
Excuse me, because I will not speak in English, and it's difficult for me to express my deep feelings with my poor 100 words. And it's difficult also for me to be so bad with your beautiful language. So I will speak in French, but sometimes it's not impossible that we have a dialogue in English. Le sujet que vous m'avez proposé peut paraître étrange. Est-ce qu'une politique culturelle peut être étrangère à la politique? Est-ce qu'en d'autres termes, une politique culturelle peut être neutre? À partir du moment où vous avez une politique publique pour l'emploi, politique publique pour la santé, politique publique pour l'éducation, inévitablement, cette politique publique est animée par une certaine vision de la cité, de la société, du monde. Donc, j'ose dire, je réponds immédiatement oui. Une politique culturelle, si elle existe, et même si elle n'existe pas, je dirais même que quand elle n'existe pas, c'est le signe d'une non-volonté qui est en même temps une volonté. En tout cas, au moins, une indifférence. Et j'allais dire d'abord, en commençant, ce qui caractérise la plupart des pays d'Europe, pour ne parler que de l'Europe, c'est que précisément un grand nombre de gouvernements, un grand nombre d'hommes politiques, de responsables, se contrefichent, je ne sais pas comment on peut traduire cela en anglais, se contrefichent des arts et de la culture comme de leur première chemise. Parfois même, cette attitude va jusqu'au mépris. On certes, naturellement, dans des discours de congrès, de banquets, il y a toujours deux phrases, trois phrases, plus ou moins creuses sur l'homme, les arts, la création. Mais les actes confinent vers le néant. Si vous me permettez, je commencerai par parler d'expériences concrètes. Et je voudrais vous dire d'abord à quel point, ça vous paraîtra peut-être bizarre, puisque je crois qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, certains souhaiteraient une politique culturelle plus active. Avant d'être ministre en 1981, j'étais déjà passionné par les arts, par la culture, par la création. Et la Grande-Bretagne était pour moi un pays, et pour les garçons de ma génération, était un pays très attirant. Précisément par sa vitalité intellectuelle, par sa créativité artistique, ses théâtres, sa musique, sa manière d'être. Dans les années, disons, 70, la Grande-Bretagne était, et Londres en particulier, c'était un peu un phare. Et souvent, je me disais, en visitant votre pays, quel dommage qu'en France, par exemple, il ne puisse pas y avoir les bibliothèques publiques qui ont été construites ou transformées dans votre pays dans les années 50-60, accueillantes, hospitalières, merveilleusement organisées. Bon, et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, lorsque je suis devenu ministre de la Culture en 1981 du président Mitterrand, mes souvenirs d'Angleterre et d'autres pays, je pense en particulier à l'Allemagne ou aux pays du nord de l'Europe, leurs institutions culturelles, m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup nourri. Et finalement, ce que j'ai essayé de faire avec François Mitterrand pendant 10 ans a été marqué par toute une série d'expériences que j'ai connues ici et là à travers l'Europe. Et dans ces années-là, dans les années 70-80, il y avait en Europe une vitalité, un élan, un appétit d'action et de création assez fort. Et pour vous donner quelques exemples concrets des premiers actes que j'ai personnellement accomplis comme ministre en m'inspirant de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, précisément c'est tout ce qui touchait au livre. Nous n'avions pas en France de politique du livre. C'est une chose d'ailleurs très bizarre. Mon plus illustre prédécesseur, qui a été un très grand ministre et qui était surtout un très grand écrivain, André Malraux, n'avait pas dans ses attributions ministérielles, ou n'avait pas demandé au général de Gaulle qu'on lui attribue la politique du livre. C'est bizarre. Je comprends un peu en même temps, on n'a pas tellement envie, en tant que ministre, de s'occuper des choses qui font partie de sa vie normale. Bref. Quelles que soient les raisons, c'est ainsi. Et quand je suis devenu ministre en 81, l'état de nos bibliothèques publiques était lamentable. Poussiéreux, abandonné. Bibliothèque municipale, bibliothèque départementale, bibliothèque universitaire, c'était honteux. Et je me suis dit, on doit accomplir un geste fort. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir obtenir, avec le soutien de François Mitterrand, le doublement du budget de la culture. Il a été multiplié par deux en une année, ce que je n'arrive même plus à croire aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai pu faire? Comment est-ce qu'on a pu faire? Nous étions un peu fous. Mais un bon gouvernement peut être un petit peu fou. Bref, pas trop sage en tout cas, pas trop conformiste, pas trop conservateur, et la plupart des gouvernements meurent, je dirais crèvent, de leur conformisme, de leur prudence, de leur peur permanente, de tout, d'eux-mêmes, de la peur de leur ombre, de la peur de faire peur. Donc, avec, grâce à un budget multiplié par deux, j'ai pu réussir à augmenter les crédits pour les bibliothèques de 170%. Ça vous paraît énorme, hein? On partait de peu. Et alors, en quelques années, nous avons décidé de restaurer, rénover ou créer 1000 bibliothèques nouvelles un peu partout à travers le pays. Un même effort a été accompli pour les bibliothèques universitaires, qui fonctionnaient très mal, qui était fermé à partir de 5 heures du soir, qui était fermé le samedi, qui était fermé le dimanche, qui était fermé pendant les périodes de vacances où on peut faire des recherches. Et nous avons changé tout ça. Alors, je suis un petit peu triste quand, venant aujourd'hui dans votre pays, qui m'a inspiré cette décision, de constater que, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je lis, les bibliothèques publiques de la Grande-Bretagne, qui étaient modèles, sont aujourd'hui dans une situation moins brillante. J'emploie volontairement une litote. Moins brillante. Et voilà, un pays, le mien, il se fait que c'est le mien, qui était wagon de queue des bibliothèques publiques en Europe, est aujourd'hui wagon de tête, et les bibliothèques publiques de Grande-Bretagne qui étaient wagon de tête sont aujourd'hui, ne disons pas wagon de queue, se trouvent au milieu du train. Il y a malheureusement d'autres pays où c'est la même chose. Et puis, nous avons pris dans le même temps une autre décision, dans les premiers jours de notre entrée en fonction avec François Mitterrand, m'inspirant encore une fois de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne et de quelques pays, nous avons décidé, pour sauver l'édition de livres, la création littéraire, de faire voter une loi pour la fixation d'un prix unique pour les livres. Peut-être que c'est une chose trop technique, je ne sais pas si vous connaissez ce sujet. Il se fait que dans la plupart des pays d'Europe, et notamment en Angleterre et notamment en Allemagne, depuis longtemps, pratiquement on peut dire depuis le début du siècle, le prix des livres était fixé pour l'ensemble du territoire national par les éditeurs. L'avantage de ce système, c'est que il interdisait le discount, il interdisait que des grands distributeurs ou des supermarchés ne vendent certains livres à prix inférieur. Alors vous me direz pourquoi ce serait anormal de vendre des livres à des prix inférieurs. L'ennui, c'est que ces grands supermarchés ou ces grands distributeurs ne vendent à des prix inférieurs que les livres qui marchent, les best-sellers, ou certains dictionnaires ou livres de large diffusion. Et pendant ce temps-là, les livres d'art, les livres nouveaux, les livres qui réclament du temps avant de rencontrer un public, ces livres-là risquent de disparaître à jamais. Et ma conviction, et la conviction qui existait dans votre pays à ce moment-là, était que pour sauvegarder la créativité littéraire, la diversité de l'édition, il faut un réseau de librairies privées, de magasins de librairies privées, très nombreux à travers le pays. car les libraires privés gardent les livres sous loi 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vient un jour où un écrivain qui n'a pas eu de succès tout à coup rencontre un public. Ce matin, je rappelais que parmi les auteurs français connus dans votre pays, Marguerite Duras ou Samuel Beckett, il a fallu 30 ans avant qu'il ne rencontre un public. 30 ans. Alors, s'il n'y avait pas eu du courage de libraire pour les garder, jamais ils n'auraient rencontré leur public. Bref, nous avons adopté cette loi sur le prix unique. J'ajoute que cette loi a été faite non pas par le ministre de l'économie ou par le ministre des finances, mais par le ministre de la culture. C'était une façon de dire tout ce qui touche à la culture doit échapper à des préoccupations de rentabilité immédiate et doit être conçu en fonction de considérations intellectuelles ou culturelles. Eh bien, je suis triste de constater que ce système, qui est un système qui a parfaitement montré ses preuves, a été abandonné depuis 2 ans, je crois, 1 an ou 2 ans, dans votre pays. Et j'ai peur que cet abandon ne soit une mauvaise chose pour les éditeurs anglais et en particulier pour les éditeurs indépendants de votre pays. Bon, je pourrais additionner toute une série d'exemples comme cela. Ce que je voudrais dire, je voudrais laisser plutôt du temps à notre échange, à notre discussion. Ce que je voudrais dire, c'est que une politique pour la culture, en effet, ça suppose d'abord une volonté, une détermination, une obstination pour la culture, pour l'éducation et pour la recherche. Pourquoi est-ce que je crois très fort qu'il faut absolument une politique publique pour la culture, pour l'éducation et pour la recherche? Bref, pour tout ce qui touche à l'esprit, pour tout ce qui touche à l'imagination. Pourquoi? Eh bien, je me permets de faire appel aux étudiants d'une école d'économie et de rappeler une règle de base que vous connaissez en économie, le temps. Le temps, comme disent de façon très familière les hommes d'affaires, le temps c'est de l'argent. Bien, tout ce qui touche à l'esprit réclame du temps. Il faut du temps pour éduquer un enfant. Il faut du temps pour accomplir ses études. Il faut du temps pour qu'un artiste progressivement sorte de accomplir ses premiers pas. Et puis, une fois qu'une œuvre est née, un film, un livre, un morceau de musique, il faut aussi du temps parfois avant que cette œuvre puisse connaître le succès. Et ce temps-là, qui le paie? Alors, on peut dire parfois des entreprises privées. On ne peut pas demander aux entreprises privées d'être héroïques, d'être constamment héroïques. Et donc, si l'on souhaite que dans un pays, il y ait une politique de l'éducation pour tous les enfants, une politique d'éducation de haute qualité, si l'on veut dans un pays il y ait un élan culturel, pas seulement dans la capitale, mais dans toutes les couches sociales et dans toutes les parties du pays, je ne vois pas d'autre solution qu'une politique publique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire appel à des initiatives privées, à des capitaux privés. Moi-même, j'ai encouragé l'adoption de législations fiscales pour soutenir les entreprises et les particuliers qui apportent de l'argent aux initiatives privées. Et alors on dira, oui, mais il y a crise. Il y a crise économique. Il y a crise financière. Comment vous allez demander de l'argent pour l'éducation, pour la culture, pour la recherche, alors que le chômage ici, la misère là, la santé publique en danger ailleurs? Je crois, aujourd'hui comme hier, que c'est précisément parce qu'il y a crise. C'est précisément parce qu'il y a crise, et pas seulement crise financière, et pas seulement crise sociale, mais d'abord, peut-être, crise mentale, crise morale, doute sur le sens de la vie, doute sur les valeurs communes de nos sociétés. C'est précisément parce qu'il y a cette crise morale qui entraîne tout le reste qu'il faut absolument que chacun de nos pays maintienne le cap de l'intelligence, de l'innovation, de la création et de l'éducation. Je ne dis pas naturellement que plus nous sommes en difficulté, plus il faut consacrer de l'argent à ces secteurs, mais je pense que dans ces périodes difficiles où nous sommes déchirés, troublés, il faut maintenir allumées quelques lumières. Il faut maintenir allumées quelques signaux. Ces signaux, c'est en quelque sorte de la part de notre collectivité l'expression que nous croyons au futur, nous croyons à un avenir, que nous croyons que les choses peuvent un jour se redresser et changer. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans l'Europe d'aujourd'hui, dans les pays d'Europe d'aujourd'hui, c'est cette espèce de renoncement dans beaucoup d'endroits à soutenir des politiques éducatives ou culturelles audacieuses. Et je redoute que cela soit le signe d'un abandon plus profond. D'autant plus, mesdames et messieurs, que les sommes en question, les sommes d'argent en question, sont relativement modestes comparées aux gâchis qu'accomplissent certains gouvernements. Je n'ose pas ouvrir ici le dossier que vous connaissez, qui agite les opinions et les gazettes, qui rendent fous pas seulement les vaches. Enfin, quand même, je ne sais pas qui est responsable. Certainement, la situation est bien complexe, mais même penser que l'on va dépenser, je ne sais pas combien, chaque année pendant 5 ans, 4 ou 5 milliards d'écus, ou 2 ou 3 milliards d'écus, on a vraiment perdu la tête. Alors, quand les hommes commettent de pareilles erreurs et qu'ils sont pris de panique furieuse, on trouve l'argent, les milliards. Quand simplement ils expriment une soif de beauté, un désir de connaissance, une envie de s'élever pour comprendre, connaître et se cultiver, alors c'est toujours trop d'argent pour cela. L'argent n'a pas la même valeur. Un sou pour la culture, un penny pour la culture, ça pèse toujours plus lourd dans les budgets publics qu'un penny pour réparer les erreurs très graves commises par les hommes politiques. Bien, je ne veux pas abuser de la parole. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si véritablement on veut précisément changer l'atmosphère, changer le climat, redonner l'envie de se battre, l'envie d'avancer, il faut littéralement changer de cap, changer de perspective et considérer que dans un pays, la première richesse, c'est ça. La première richesse, ce sont nos trésors d'imagination et d'intelligence. Et quand nous observons notre puissant concurrent, les Américains, ils savent, eux, alors évidemment avec des méthodes différentes des nôtres, ils savent, eux, que la force de demain, ce sont les laboratoires, ce sont les équipes scientifiques, artistiques ou intellectuelles regroupées ici à Hollywood, là, en Californie, d'autres sur la côte Est. et avec un esprit d'équipe formidable. Ils investissent dans l'intelligence et dans la recherche beaucoup plus que nous ne savons le faire aujourd'hui en Europe. Bon, peut-être je préfère m'arrêter là pour l'instant et rompre un peu avec votre règle habituelle. Je voudrais être sûr que ce que je vous raconte peut répondre à telle ou telle de vos préoccupations. Et je préférerais finalement orienter mon intervention, mes interventions, à la faveur de questions, et plus que de questions, peut-être d'objections, ou de critiques, ou d'interrogations vives que vous pourriez formuler les uns et les autres.
Thank you very much, Minister, for the kind of political speech that we haven't heard for many years in Great Britain. Now, things are going to be slightly complicated because of the technology, but there will be two roving microphones, one down each aisle, and I would ask those people who would like to ask a question, please, to wait until the microphone comes to them so that our hard-working translators can hear the question and can translate it. If we do get into any linguistic muddles, Howard Machin here will cope. One final thing. When you ask your question, it would be very helpful to everybody if you could just say who you are. Now, is there any brave market for... yes, sir, down the front here.
Je parlerai en français, parce que j'ai un étudiant en échange ici. Vous êtes à la fois un... pro-européen et vous défendez des aides publiques pour la culture. Il semble que ces dernières années, toutes les règles de concurrence qui ont été qui viennent de Bruxelles et la libéralisation du commerce jouent contre les aides publiques. Et il semble qu'on réduit progressivement on coupe finalement toutes les aides à la culture à cause de ces négociations sur la libéralisation du commerce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez réconcilier ces deux objectifs?
It has been translated?
Oui, please.
Non, je vous réponds très rapidement. Si ceux qui coupent des aides publiques invoquent l'Europe, ce sont des menteurs. Si les gouvernements ou les villes qui coupent les aides publiques à l'éducation, à la recherche, à la culture disent c'est à cause de l'Europe, ce sont des prétextes. Ils mentent. Car, comme vous le savez peut-être, je vous le rappelle, dans le traité de Maastricht, tout au contraire, il a été explicitement écrit, et j'y suis pour quelque chose, que les gouvernements peuvent continuer librement à encourager la création, la diversité culturelle, etc., etc. Donc c'est exactement le contraire. Je dirais que la construction européenne d'aujourd'hui est une construction qui non seulement n'interdit pas, mais encourage les gouvernements à continuer une politique originale et particulière d'aide publique. Ah, c'est autre chose.
Yeah, I'm afraid so, but we'll just have to cope with that. Could you tell the internet?
Yes.
What?
Je vais traduire la question.
Yeah.
Non, monsieur, je crois, c'est compréhensible, parce que ce sont des questions très, très techniques. Vous voulez évoquer en réalité une autre question qui... Non, mais qui est voisine, qui est voisine, qui est proche. C'est la question qui a opposé l'industrie du cinéma américain et les Européens, pour parler vite, à propos du cinéma et de la télévision au moment de la renégociation des accords du GATT il y a un an et demi, deux ans. Et ce que les Américains, l'industrie américaine et le gouvernement américain voulaient obtenir de nos gouvernements, ils voulaient obtenir que les mécanismes juridiques d'encouragement à l'industrie du cinéma ou à l'industrie de la télévision soient, en quelque sorte, supprimés. Au nom... de la réciprocité ou de l'égalité de concurrence entre Américains et Européens. Ou bien, disait-il, si vous ne les supprimez pas, ces aides au cinéma, il faut que nous, Américains, on en profite aussi, puisque nous sommes présents sur le territoire européen. Alors, ça a été une bagarre très dure, très véhémente, et finalement, je dirais que, malgré le gouvernement britannique, et quelques autres gouvernements, nous l'avons emporté. Finalement, il a été considéré que la culture ne ferait pas partie des accords du GATT. Et nous avons justement invoqué ce que nous avons appelé l'exception culturelle, en disant, et ça c'est très important du point de vue de la philosophie des choses, en disant que la culture, ça n'est pas une marchandise comme une autre. Non, mais on peut discuter ça, mais la philosophie qui était la nôtre, c'est de dire un livre, un film, ce n'est pas un produit industrialisable comme l'est une savonnette ou un tube de pâte dentifrice ou une boîte de tomates. Quelque respect qu'on puisse avoir pour ces trois choses nécessaires à la vie. Donc, nous revendiquons, nous avons revendiqué, je suis un petit peu celui qui a fomenté cette bataille, la notion d'exception culturelle, réclamée pour la culture, et je continue à le penser vraiment. Il faut absolument que nous réclamions pour la culture, pour l'éducation et la recherche, un statut spécial, parce que tout ce qui touche aux biens immatériels, tout ce qui touche à l'esprit, un, c'est fragile. Deux, ça réclame du temps. Trois, ça n'est pas reproductible, malgré les moyens modernes, comme l'est un morceau de fonte ou un kilo de je ne sais pas quoi. Alors, pour combien de temps, vous me dites? J'espère pour un bout de temps. Parce que mon secret espoir, je m'excuse alors de faire un tout petit peu de politique, mon secret espoir, c'est que...
Non.
Pardon, je n'ai pas terminé.
Oui, oui, oui.
Je termine sur ce point en disant que mon secret... que mon secret espoir, c'est que la gauche, pardon, faire un peu de politique, c'est que la gauche progresse, puisse progresser dans quelques pays d'Europe. Je suis très heureux qu'en Italie, la gauche ait gagné. Je vais vous dire pourquoi je suis très heureux, parce qu'ils ont viré ce type abominable qui s'appelle Monsieur Berlusconi, et qui pour moi est précisément l'incarnation de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'homme qui a tué le cinéma italien, c'est l'homme de la télévision commerciale la plus vulgaire, c'est l'homme du desservelage et de l'abrutissement général. Oui. Alors voilà.
Non.
Alors, j'espère que dans quelques mois, je ne suis pas là pour faire de la propagande, mais peut-être qu'il y aura un changement chez vous aussi.
Now, there is a...
Et en France, à mon avis, avant deux ans.
There are a forest of potential TV critics in the audience, but I do have you, sir, in the at the top, and then you.
Oui. Alors pour moi, ça va être en français également. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Vous pensez être réellement persuadé que la culture peut faire changer les choses, vous disiez tout à l'heure, au niveau social dans les pays européens, qui ont, on le sait, ont quelques problèmes en ce moment. Comment est-ce que concrètement, vous pensez que la culture peut faire changer les choses ?
Mais monsieur me pose la question de savoir si la culture peut vraiment changer les choses, notamment sur le plan social, dans les pays européens qui connaissent en particulier le chômage. Je n'ai jamais dit que la culture, c'était la voie royale pour tout. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que si vous voulez maintenir dans un pays un idéal de vie, si vous voulez maintenir le moral, je dirais, collectif, si vous voulez tout simplement aussi nous distinguer de ce qui nous sépare de l'animal, donc nous voulons être des êtres humains, au moins on doit faire ça. Bon. Par ailleurs, j'ai quand même observé que, pour parler simplement de ce que je connais mieux, c'est-à-dire mon propre pays, j'ai observé que les villes qui, je les ai beaucoup poussées à ça, les villes qui décident d'investir beaucoup pour les arts et la culture, ont changé aussi leur image, leur atmosphère, et ont contribué à faire venir des investisseurs. Et par conséquent, la culture a parfois constitué, dans certaines villes, un levier du développement économique. A été une sorte de déclencheur d'autre chose. Et je pense que ce n'est pas à négliger. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de répercussions comme ça, par ricochet, qui proviennent de l'investissement culturel et intellectuel. Dommage qu'il n'y ait pas un Keynes d'aujourd'hui pour le théoriser.
Yes. May I speak in English? Yes. My name's Anthony Everett. It's rather late in the discussion to put this question, but culture is a slippery term. I'd very much like to know what Mr. Lang thinks culture is. What is a culture that he's referring to in the context of public political intervention? I ask the question from an English perspective, where characteristically culture in an arts or creative definition has been put very narrowly, in a sense focusing on the what one calls the high arts, the old arts. Is that enough? How broadly should a definition of culture be drawn for the politician who wants to intervene?
Mm-hmm. Bon, c'est vrai que les conceptions ne sont pas tout à fait les mêmes sur ce plan d'un pays à l'autre. Et je sais bien que en Grande-Bretagne, comme vous le dites vous-même, l'expression culture concerne les beaux-arts au sens, on ne peut dire pas étroit, mais le théâtre, la littérature, les musées, les monuments, etc., la musique. Bon, par exemple, on peut regretter, mais à chacun d'apprécier que le cinéma, qui est selon moi, selon beaucoup d'autres, un des grands arts du XXe siècle, ne soit pas toujours considéré dans la mentalité collective comme un art, plutôt comme une forme de divertissement dont on peut plus ou moins se passer. D'ailleurs, cette attitude par rapport au cinéma a eu pour conséquence que dans les années 70-80, le cinéma anglais, qui était très brillant, a connu une grave crise. Et je me réjouis de constater que depuis une dizaine d'années, il y a une certaine renaissance, avec des cinéastes très brillants comme Peter Greenaway, Kenneth Loach, Frears et quelques autres. D'ailleurs, j'observe au passage qu'il y a eu cette renaissance du cinéma britannique grâce à deux mécanismes, je dirais, publics ou parapublics. L'un, c'est Channel 4, qui est quand même un mécanisme parapublic, même si son financement provient de ITV, mais quand même c'est à la suite d'une règle qui a été établie par la puissance publique. Et l'autre mécanisme, c'est un mécanisme que j'avais mis au point à l'époque, de coproduction européenne, dont pas mal de films britanniques ont bénéficié. Bon, c'est vrai que le cinéma n'est peut-être pas assez justement considéré ici comme un art en part entière, encore que, et c'est une autre dette que j'ai à l'égard de la Grande-Bretagne, encore que, vous ayez créé le British Film Institute, qui est tourné plutôt vers le passé, qui est tourné vers le patrimoine. Et lorsque j'ai visité il y a une douzaine d'années cet institut, mais c'est important le patrimoine aussi. On doit le faire, on doit le protéger. Et lorsque j'ai visité cet institut très remarquable, j'ai décidé en France de faire la même chose, enfin de m'inspirer de cet exemple. Et je crois qu'effectivement, vous ne considérez pas non plus les fictions télévisuelles comme appartenant à une création artistique au sens normal. Cela dit, sur ce point, vous n'avez à apprendre rien de personne, car on peut dire, franchement, en pesant ces mots, que la télévision britannique est la meilleure du monde. C'est-à-dire que le système britannique est le plus ingénieux et le plus créatif du monde. La BBC d'un côté, ITV de l'autre, Channel 4. Réellement, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier, même s'il y a eu une réforme fâcheuse qui a été faite de ITV par Madame Thatcher il y a 7 ou 8 ans. Mais ITV a quand même tenu le coup. Alors, c'est vrai que en France, on a parfois tendance à inclure dans ce qu'on appelle culture des domaines qui touchent davantage, je dirais, à l'art du quotidien. Bon, l'architecture, le design. Oui, alors, très bien, alors. Je vois de quoi vous voulez parler. Monsieur vient de dire rap. Et alors, c'est vrai que, pas seulement des Anglais, mais des Français très franchouillards, très Frenchy, disons, m'ont beaucoup reproché d'avoir, je ne sais pas quoi, d'avoir coiffé, d'avoir eu un regard, quoi, une attention, comme ça, quelques oreilles ouvertes vers les musiques d'aujourd'hui. C'était criminel, sacrilège, scandaleux, c'était une atteinte naturellement à la haute culture des clercs du Moyen-Âge et de Descartes et de tous les grands intellectuels français. Mais ne faisons pas de dispute sur les mots. Mais quand on est responsable de dire en partie d'un gouvernement ou d'un pays, je trouve quand même que le premier devoir de ce responsable, c'est en effet de regarder un peu autour de lui, d'être à la fois ambitieux pour son pays et modeste. Aujourd'hui, on dit le rap avec des sourires un peu moqueurs. Mais réfléchissez un instant. Je ne dis pas que il y a des artistes, je dis bien des artistes de rap qui sont tout à fait remarquables. D'autres qui sont nuls, comme il y a des poètes nuls, comme il y a des écrivains nuls, comme il y a des musiciens nuls. Pas parce qu'on est poète qu'on est bon. Eh bien, réfléchissez un instant, je ne sais pas si d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire du théâtre ou à l'histoire du spectacle. Il y a une certaine parenté entre, je parle du rap raffiné, oui en effet je dis bien raffiné, parce que c'est un art qui a son vocabulaire, sa syntaxe, si c'est vrai, simplement il y en a qui manie avec plus ou moins d'érudition, de virtuosité ce vocabulaire et cette syntaxe. Et personnellement, je trouve qu'il y a une parenté, excusez-moi de vous choquer, mais il y a une parenté entre cet art de la rue et l'art de la rue par exemple, des comédiens italiens du XVIIe siècle que l'on rencontrait sur toutes les places de Paris. Sans compter, ici même en Angleterre, où c'était encore une tradition peut-être encore plus profonde, des comédiens de rue, des comédiens improvisateurs, qui avaient aussi un vocabulaire et une syntaxe, une manière d'être et d'improviser, à la fois populaire et raffinée. Bon, alors on peut discuter longuement sur ce plan. D'ailleurs, je n'ai pas consacré des millions de francs à aider les groupes de rap. Je crois que ce que les artistes aussi demandent, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas d'abord de l'argent. Ils demandent d'abord une attention. Ils demandent qu'un regard, ils demandent un minimum de considération et de respect de leur dignité. Ce que la plupart des responsables publics sont incapables, ne veulent pas leur apporter. Parfois même, il y a une manière d'apporter un soutien matériel qui est une forme de mépris. Bon, alors c'était pour répondre à votre question sur les frontières. Alors, où s'arrêtent les frontières entre ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas? Nous pouvons... C'est un débat qui a occupé longuement les universités au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Quels sont les bons genres? Quels sont les mauvais genres? J'imagine que lorsque vous avez suivi des cours de littérature, vous avez dû certainement disserter longuement sur ces sujets. En tout cas, en France, on en est très friands. Est-ce que le sonnet, est-ce que la versification en 12 pieds ou en 6 pieds, est-ce que, bon, ça anime les dîners, les débats, les conférences, les rencontres, parfois même les rencontres amoureuses.
Monsieur le ministre, nous vivons, vous l'avez souligné, à l'heure d'un grand danger qui est celui de l'hégémonie culturelle américaine. Vous avez également souligné l'action de la France dans ce domaine, notamment par l'exception culturelle. D'un autre côté, me semble-t-il, le gouvernement Fabius duquel vous étiez s'est battu bec et ongles pour que Euro Disney s'implante en France. N'y a-t-il pas là une certaine incohérence? Et est-ce que cette politique culturelle-là ne nécessiterait-il pas, pardon, un peu plus de cohérence? C'est la première partie de ma question. La deuxième est la suivante. Quand est-ce que la France voudra-t-elle vraiment prendre au sérieux la francophonie? Je viens d'un petit pays, limitrophe du vôtre, francophone en partie, et il me semble qu'on n'est toujours pas vraiment pris au sérieux.
Lequel?
Culturellement par la France. Écoutez, je vous laisse deviner. Non, je suis suisse, mais ce n'est pas là le problème.
Ah ben, j'aurais pu...
Et il me semble que la francophonie aujourd'hui devrait plus se concentrer sur la francophonie historique plutôt que d'aller s'étendre en Roumanie ou au Vietnam ou ailleurs encore. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté plus politique de la France pour sa politique extérieure que de la volonté de défendre le français et la culture française.
Nos amis anglais n'ont pas le même problème avec la langue anglaise. Où s'arrête l'empire, ou plutôt le domaine, de la langue anglaise aujourd'hui, pas facile à dire. Vous n'avez pas de problème existentiel en Angleterre sur le destin de la langue anglaise. Sur le premier point, la première question que vous posez, bon, je peux parler librement puisque maintenant je ne suis plus lié par la solidarité gouvernementale. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que dans cette année-là, 1985, j'ai souffert deux fois. Mais je m'étais interrogé d'ailleurs sur ma présence au gouvernement, mais c'était à quelques mois d'élection et nous n'étions pas considérés comme gagnants. Donc il eût été pas très sympathique de quitter un gouvernement à un moment où celui-ci était en difficulté. Bon, puis, qu'est-ce que vous voulez, on fait partie d'un gouvernement, on ne peut pas être d'accord sur tout. De même que les autres membres du gouvernement ne sont pas nécessairement d'accord avec tout ce que vous faites, vous-même. Donc j'ai eu deux moments difficiles, c'était très proche l'un de l'autre dans le temps. C'était lorsque s'est créée en France la première chaîne commerciale, avec le citoyen Berlusconi. J'ai mal digéré cette histoire. Heureusement, ça a échoué. Puis quand je suis revenu au gouvernement en 88, j'ai tout fait pour le faire échouer définitivement. Et à la place, il y a une chaîne éducative aujourd'hui, et une chaîne culturelle, j'en suis très content. Non, TF1, ça n'a rien à voir. Non, TF1, ça a été créé par un autre gouvernement, ça n'a rien à voir. Et puis alors, quant à Disneyland, je dois dire que j'étais triste aussi. Triste surtout parce que je voyais un gouvernement intelligent, qui était dirigé par un homme très intelligent, céder à une forme de chantage à laquelle beaucoup de gouvernements cèdent de plus en plus. Et c'est compréhensible humainement, le chantage à l'emploi. Quand on dit, le débat n'était pas du tout culturel. Le débat c'était, Disney va apporter des investissements et donc va créer des revenus, etc. Va engager des gens, et donc ça va être une source de développement. Et je disais, mais en êtes-vous si sûr? Et à quel prix? Et quand j'ai vu de près qu'on avait accordé des privilèges fiscaux totalement disproportionnés, j'ai comparé les privilèges fiscaux et les éventuels emplois qui seraient créés, et par ailleurs, l'inconvénient culturel que vous soulignez, je pense que c'est une décision tout à fait fâcheuse. En même temps, disons que elle aurait été, je dirais, irréparable ou totalement insupportable si dans le même temps, et depuis 5 ans, nous n'avions pas accompli ce que nous avions accompli pour sauver les monuments historiques, développer les arts et les activités artistiques et intellectuelles à travers l'ensemble du pays. Bon. C'est un petit point noir que j'ai beaucoup déploré. Cela dit, ils ont été ensuite un peu punis parce qu'ils ont connu quelques désagréments. C'était moins facile qu'ils l'imaginaient de s'implanter là. Le soleil des tropiques n'est pas nécessairement le ciel gris de Paris. Et puis l'autre point, c'était la francophonie. Je ne peux pas vous dire, je ne pense pas qu'on puisse dire ce que vous dites là sur... je crois que les gouvernements essayent de faire ce qu'ils peuvent. Simplement, qu'il y ait des gens, c'est quand même qu'il y ait des gens qui parlent le français en Bulgarie, en Roumanie ou ailleurs, je ne vois pas en quoi ça ne mériterait pas une attention. Ou au Vietnam. La francophonie a souvent souffert d'être monolithique et d'être soumise à une conception dominatrice. Parisienne. Longtemps, par exemple, on s'est moqué alors de la manière de parler le français au Québec, en Suisse ou en Afrique ou ailleurs, alors que précisément l'une des richesses d'une langue de dimension internationale, c'est précisément qu'elle soit diverse. Mais il me semble que si l'on veut véritablement soutenir ce qu'on appelle la francophonie, ça passe d'abord par une volonté de développement culturel à l'intérieur et à l'extérieur. Or, malheureusement, en ce moment, peut-être moins que chez vous, moins qu'en Angleterre, mais on coupe. J'ai appris qu'on avait coupé de combien? De 20% les crédits du British Council? 18%. Je ne crois pas que ce soit encore le cas pour les crédits du Quai d'Orsay, mais enfin, ça va venir peut-être. 7%. C'est déjà beaucoup trop. Surtout, ne dites pas à M. Chirac, quand il verra la semaine prochaine, que les crédits du British Council ont été diminués de 17%. Il ne faut pas lui donner de mauvaises idées.
Yes, sir, you. Yeah. Cool.
Je vais aussi vous poser une question en français. Vous avez fait allusion, une brève allusion avant à la culture télévisuelle, si on veut parler de ça comme ça, ainsi qu'à votre amitié pour M. Berlusconi plusieurs fois. Alors j'aimerais savoir si en France, finalement, on n'a pas un peu l'impression qu'on n'a pas eu besoin d'un Berlusconi pour, au niveau télévisuel en tout cas, sortir des productions extrêmement pauvres culturellement. Et si dans ce domaine-là, la façon dont on défendait une certaine médiocrité par rapport à la médiocrité américaine, c'était pas on peut faire une exception aculturelle plutôt que culturelle. Parce que ce qui sort maintenant n'est en tout cas pas d'un très bon niveau, vous êtes d'accord, peut-être ou pas d'ailleurs, mais au niveau de la production, donc de fiction, je parle.
Il faut, vraiment, je crois qu'il faut se méfier de excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je veux dire que il faut se garder quand même de discours de café du commerce. C'est-à-dire de discours qui consistent à dire, à trancher. Non, il y a des choses, en effet, il y a des choses moches, basses, et il y a aussi des productions de très grande qualité. Disons même globalement, si vous voulez, avec la multiplication des chaînes, globalement, il y a plus de production médiocre, mais il y a aussi plus de production de bonne qualité. Mais oui. Et Arte a vu le jour. Oui. FR3 est une chaîne qui a une certaine tenue. Je regrette qu'Antenne 2 ait parfois quelques dérives. Il arrive parfois aussi quand TF1 fasse de bonnes productions. Donc je ne peux pas dire non, on ne peut pas, je suis très sévère moi-même, donc on ne peut pas comme ça dire... d'un trait de plume, c'est abominable. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas ici prendre la défense. Il faudrait toute une heure quand on va parler longuement de... Bon, après, il y a un domaine dans lequel... Je peux dire un mot sur un domaine dans lequel on s'aperçoit qu'une volonté publique accordée ou conjuguée à une volonté privée et à des talents porte ses fruits. J'y pense à cause de la télévision. Il y avait en France une tradition assez forte du film d'animation qui, pour toute une série de raisons, s'est effondrée. Et avec quelques amis, dans les années 82-83, on s'est dit, mais c'est quand même pas possible. Nous connaissions des dessinateurs qui allaient aux États-Unis ou au Japon. Des équipes de production étaient venues nous trouver en disant, nous on est prêts à investir. Eh bien, nous avons décidé de mettre au point un plan de résurrection du film d'animation avec très peu d'argent, mais en obtenant précisément des télévisions qu'elles prennent l'engagement de commander chaque année, et plus les chiffres en mémoire, X heures de films d'animation et d'investir naturellement un peu d'argent. Mais je peux dire très franchement, c'est reconnu aujourd'hui partout et dans tous les marchés internationaux, le film d'animation français, notamment grâce aux télévisions et puis à l'effort que nous avons accompli, a connu un renouveau qui est incontestable. Voilà un exemple, si vous voulez, qui montre qu'une politique publique qui est jointe à l'effort de producteurs privés, à des talents naturellement, porte ses fruits.
I think we have time just for two more questions.
Je ne suis pas fatigué, hein, s'il est...
One down here, and then finally you, madam, over there. But
je m'appelle Ralph Turvey. Je suis et retraité et professeur d'économie politique ici. À part les négociations internationales commerciales concernant le cinéma, est-ce qu'il y a des fonctions culturelles que vous voudrez attribuer aux institutions européennes?
Vous ne le savez, vous savez peut-être pas, mais j'ai souhaité personnellement, quand je suis devenu ministre, que l'Union européenne, on ne l'appelait pas ainsi à l'époque, la communauté européenne, puisse s'intéresser un peu à la culture. Parce que je crois que, comme j'ai essayé de l'expliquer, on ne peut pas aujourd'hui dire séparer l'économie et la culture. Pour moi, économie et culture, au sens large, même combat. Je dirais même que je me permets de vous renvoyer d'ailleurs à un ouvrage tout à fait remarquable que certainement vous connaissez dans cette école, l'ouvrage de Robert Reich sur l'économie mondiale, qui est le secrétaire d'État au travail du président Clinton. Et son ouvrage est très très intéressant, en particulier, c'est vu d'un point de vue américain, mais il a une portée internationale, en particulier lorsqu'il aborde tous les sujets liés, tous les gouvernements devraient le méditer, à l'éducation, à la culture, au développement intellectuel. Et il montre à quel point, dans la mondialisation, l'investissement intellectuel sera déterminant pour les économies, notamment pour les économies occidentales. Donc, les pays européens qui aujourd'hui font les timides vis-à-vis de ces questions font fausse route. J'en suis convaincu, ils font fausse route. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais souhaité que la culture soit progressivement, fasse partie progressivement des préoccupations de la communauté européenne. Qu'est-ce que nous avons fait ? D'abord, on a obtenu que les ministres de la culture puissent se réunir, ce qui n'était pas le cas. On a obtenu que chaque année, une ville soit désignée comme capitale intellectuelle de l'Europe. Et pendant cette année-là, colloques, expositions, spectacles affluent vers cette ville. Pour votre pays, je crois que c'est Édimbourg, n'est-ce pas, qui avait été choisi comme capitale culturelle il y a... Glasgow, oui. C'était quand, il y a 3 ans, 4 ans? Oui. Bon, et ça marche pas mal, bon, chaque année. C'est modeste, mais ça a une certaine force psychologique. Bon, on a fait adopter toute une série de règles communes sur la circulation des œuvres d'art. Il y a eu un compromis entre, pas mal d'ailleurs, entre les théories britanniques, les théories des pays latins, et je crois qu'on a trouvé un accord intelligent sur la liberté de circulation des œuvres d'art et en même temps la protection du patrimoine. Bon, il y a eu toute une série d'autres initiatives. Faut-il aller plus loin? Personnellement, je dirais oui, tout en respectant la diversité, tout en respectant la singularité de chaque pays. Bon, par exemple, je reviens au cinéma, ou au développement des nouvelles technologies. Quand vous pensez, en fait, l'addition de ce que coûte à Bruxelles ce qu'on appelle les fonds structurels, des sommes colossales. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, ça sert à aider certains pays en difficulté, et parfois avec réussite. Je pense à l'Irlande, je pense au Portugal, je pense aussi à la Grèce. Et c'est vrai que là, il y a eu certaines régions aussi de nos pays. Je ne sais pas quelles sont les régions qui, en Grande-Bretagne, bénéficient de ces fonds structurels. Mais c'est des sommes... Et j'avais proposé, à un moment donné, que 1% de ces fonds structurels soient affectés à un petit fonds, pas une bureaucratie, un petit fonds pour la relance du cinéma européen et pour l'encouragement, disons, aux industries de programmes pour les nouvelles technologies. Car si nous voulons que sur les nouveaux modes de transmission, Internet et quelques autres, l'esprit européen ou l'esprit de nos pays soit présent, il faut que nous soyons capables d'investir dans les contenus et pas seulement dans les machineries. Bon, voilà un domaine dans lequel je suis convaincu qu'avec peu d'argent, un peu de volonté, 2-3 personnes intelligentes, on pourrait faire des merveilles. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas du tout de créer un ministère européen de la culture. Je dirais que, d'une certaine manière, la culture européenne, elle se crée d'abord chez soi, à sa porte, dans son village et dans sa ville. Donc, bon, je dirais que si demain, en Grande-Bretagne, vous décidez de renouer avec des époques où vous avez été infiniment plus audacieux sur le plan culturel, eh bien, à ce moment-là, vous serez de bons serviteurs de l'Europe. Je veux dire par là, servant le développement de la culture ici en Grande-Bretagne, vous servez par là même l'Europe, je veux dire notre continent commun. Bon, c'est vrai que les traditions ne sont pas les mêmes qu'en France ou que sur le continent, mais quand même, l'Arts Council a été une invention assez géniale. Et c'est, je crois, Keynes qui l'a inventé en 1900, en pleine guerre. Il fallait le faire quand même. Qu'en pleine guerre, en pleine guerre, on peut pas en pleine guerre, en 43, en 44, ça commençait déjà, bon. 43-44, je crois, Keynes a inventé l'Arts Council, dont il a été, je crois, le premier président. Vous avez eu, à l'époque de Harold Wilson, un souffle dans ce domaine, un élan, et en particulier, je crois, incarné par une femme qui s'appelait Jenny Lee.
Jenny Lee.
Mm-hmm. Oui. Donc, qui a apporté un esprit, qui a apporté une confiance, qui a apporté un optimisme. Elle n'était pas une femme de culture, mais elle avait une générosité, elle avait une volonté, elle avait une passion, elle avait quelque chose qui se communiquait à travers le pays. Donc, servir l'Europe, c'est d'abord soutenir la création dans son pays.
Madam.
Sarah Blown from the University of Portsmouth.
The last question.
Yeah, I'll try this question in French.
As you want.
Vous aviez évoqué tout à l'heure l'action des grandes villes en France en faveur de la culture. Où est-ce que la culture se termine et la communication commence?
Je vais répéter, je ne comprends pas.
L'action culturelle, est-ce que c'est toujours culturel ou est-ce que c'est pour promouvoir autre chose? C'est quelque chose qui travaille beaucoup les penseurs, de certains penseurs de la culture.
Et on peut toujours naturellement s'interroger sur les arrière-pensées qui se trouvent derrière les meilleurs actes. On s'en fout des arrière-pensées. Il n'y a qu'un maire et comme arrière-pensée sa réélection, pourquoi pas? Qu'un maire ait pour arrière-pensée la réputation de sa ville, pourquoi pas? Et en quoi d'ailleurs serait-ce répréhensible? Ce qui compte, ce sont les actes qu'il accomplit. Si, comme c'est le cas dans toute une série de villes en France ou en Allemagne, ou j'imagine ici en Grande-Bretagne, il y a un effort qui est accompli pour les musées, pour les centres d'art, pour les théâtres. Là est l'essentiel. Pourquoi se préoccuper de ce qu'il y a derrière? Vous savez, plus rien dans la vie ne serait accompli si chaque fois on se disait « Ah, il le fait, c'est pour se faire plaisir. » Et alors? Faut-il toujours se faire de la peine? C'est comme ceux qui disent qu'une éducation digne de ce nom, c'est une éducation pour laquelle il faut souffrir. Et si on apprenait en s'amusant? Parfois en souffrant. Donc je ne comprends pas bien votre question. Qu'il y ait des manifestations superficielles, donc sans lendemain, alors bon, oui. Mais tout à l'heure j'évoquais des réalités plus profondes et durables, des investissements plus durables qui ont été engagés par le maire de Montpellier, ou le maire de Grenoble, ou le maire de Lille, ou enfin, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je dirais toutes tendances politiques confondues. Mais parce qu'un maire fait sa propagande là-dessus, que pour autant ses actions perdent leur sens. Je ne comprends pas. Creusez votre question. Non, mais je veux dire, dites en plus.
C'était juste pour ouvrir le débat, voilà.
Alors répondez à ce que je vous dis, alors.
Non.
Alors, non, allons plus loin, s'il faut aller plus loin.
Non, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y a un élan qui se commence par ça, moi je crois que c'est toujours une bonne chose, mais il y a peut-être les gens ici qui ne sont pas d'accord.
Alors, y a-t-il des personnes qui ne sont pas d'accord?
Well, Minister, I'm afraid I have to...
Non, mais cela dit, s'il y avait une question qui était vraiment contenue, ne censurez personne en fin de course. Oui, naturellement.
Je crois que les fortes nuances, parce que dans la recherche et le développement, il y a une logique économique, ça obéit à une logique économique, tandis que dans
Ça demande.
Non.
Bien sûr. Non, on ne confond, je le crois, je ne confonds pas les deux choses, mais si vous voulez, si j'ai mis l'accent peut-être à tort, mais je ne crois pas à tort parce que, comme tout de même, je lis de temps en temps ou je m'informe un peu sur les débats qui ont lieu en Grande-Bretagne. Je vois que l'idée de politique culturelle selon les périodes est soutenue ou combattue. Je veux dire à ceux qui croient à une politique pour la culture qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne disent pas à l'opinion publique britannique si nous sommes pour une politique publique, ce n'est pas seulement par passion pour la poésie, mais c'est d'abord peut-être par passion pour la poésie, et pour Rimbaud peut-être, ou pour Lautre et Hamon, ou pour Oscar Wilde, ou pour Yeats et quelques autres. Mais c'est aussi parce que, messieurs les gouvernants qui avaient toujours peur de tout, c'est utile aussi, sans que vous le sachiez, sans que vous l'imaginiez, pour le pays dans son ensemble, et pas seulement pour les poètes, et pas seulement pour les artistes, et pas seulement pour les créateurs, c'est tout. Donc l'argument économique, je dois dire, je l'ai utilisé beaucoup moi-même pour arracher des crédits. Comme cet argument m'a permis d'abord de doubler le budget de la culture en France, puis ensuite de le porter à 1% du budget de l'État, je me dis que ça peut servir à d'autres. Mais, naturellement, cela étant dit, une politique scientifique a ses propres lois, une politique technologique a ses propres lois, le soutien aux revues de poésie a ses propres lois. Il ne faut pas confondre les genres entre eux, je suis d'accord avec vous.
I really do think that we ought to now thank the minister for giving us an extremely amusing and witty and stimulating talk. He mentioned how in his own development he had drawn inspiration from what had been happening in Britain in the 40s and the 50s and the 60s, and of course the tension and much of the fun of relations between the French and the British is that we're always copying something that the other is just about to give up. And as a director of Granada Television, I can tell you we lost more money investing in France than in any other country. The only thing we ever made money on was sexy films with Canal Plus, but I mean, enough of that. I have a number of boring things that I must remind people to do. Please, could you hand your sets in? Not only are they expensive, but we need them in a couple of days' time for a lecture by an Italian visitor. And it would be churlish of me if I didn't thank on your behalf our translators, who've done a wonderful job, and we're very grateful to them. And of course, as I said at the beginning, we're enormously grateful to the French ambassador, the French embassy, and the Institut for helping us put on this course, and we hope that this will be the first of a number of joint activities. And in that connection, of course, I'd like to thank Howard Machin, who has, as he has done so often, enormously helped put on this evening's lecture. And it's an extremely fortunate and pleasurable thing for me to be able to do, to reveal that I had this afternoon a letter from Brussels, which told me that he has been successful in getting a Jean Monnet chair. So I can think of no one who deserves it more or who will fill it better than the head of our European Institute, and it's extremely pleasurable for me to be able to use this occasion to announce it in public. So thank you very much, Minister. Well done, Howard. You now have to go into the chair.